Bonjour Monsieur Jean-Jacques Wondo.
Bonjour Monsieur Tientalema.
Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Pourquoi avoir écrit sur les armées au Congo et non sur l'armée congolaise?
Avoir écrit sur les armées au Congo parce que vous constaterez que depuis la période coloniale, on n'a jamais eu une armée, mais on a eu des armées. Au point que on n'a jamais eu une armée qui s'est appelée armée congolaise. On a eu d'abord une force publique, l'ANC, donc l'armée nationale congolaise, qui s'est transformée en 1971 ou 71 au FAS, et ces FAS qui sont transformées au FAC, donc force armée congolaise, pour devenir aujourd'hui les FRDC. Donc on n'a pas l'esprit d'une armée, comme en France on parle de l'armée française, comme en Belgique on parle d'une armée belge, mais on a eu des armées. Et à l'intérieur des armées, il y a eu aussi des groupes armés qui se sont constitués de manière autonome par rapport à l'armée nationale. Pourquoi avoir écrit sur l'armée? C'est parce que j'ai constaté qu'il règne actuellement une certaine cacophonie autour de la réforme du secteur de la sécurité. Il fallait à un certain moment réclarifier les choses. Aujourd'hui, on voit tout le monde venir apporter soit son expertise, son analyse, sa critique sur la réforme. Mais quand on regarde au fond, on se rend compte que toutes ces personnes ne parlent pas toujours le même langage et ne comprennent même pas l'essence d'une armée. Et pour moi, qui suis à la fois un militaire formé et un politologue, il était important de remettre les choses sur les rails. Parce que comment peut-on réformer une armée dès lors qu'on ne comprend même pas les principes de fonctionnement de cette armée? Aujourd'hui, nous avons la Grèce, par exemple, qui est dans une situation de crise financière, mais on ne voit jamais les ONG venir aider ce pays. C'est plutôt des experts, des personnes qui connaissent le fonctionnement du système monétaire financier qui vient apporter des solutions. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est aussi remettre la place et le rôle de l'armée dans un État. Le rôle de l'armée dans comme fondateur, comme intégrateur de l'État et d'une nation. Et la troisième raison, et aujourd'hui nous sommes arrivés à un point tel que ce qui se passe particulièrement en l'Est devient intolérable pour tout natif du Congo, tout patriote congolais, et il était temps qu'à ce moment qu'on se dise que l'armée ne soit plus un domaine de chasse privilégié de quelques personnes qui prennent cette armée en otage. Il fallait aussi amener le débat de l'armée auprès de la société, donc au sein de la société, en informant la société, c'est quoi une armée.
Mais dans cette analyse, vous êtes parti de la force publique jusqu'au FRDC. Quelle est la particularité de chaque corps?
Plutôt que parler de la particularité, moi j'ai fait une analyse qui montre ce qu'on appelle une vision synoptique. Quelle est plutôt la ressemblance entre ces différentes armées? Quoique ces armées s'appellent, ont des dénominations différentes, mais on voit que ces armées se comportent d'une manière homogène. Donc c'est vrai qu'il y a des particularités. La force publique, on doit l'avouer, c'était une armée que je qualifie dans mon ouvrage d'occupation et d'exploitation pour la simple raison que les finalités de la force publique étaient en harmonie avec l'objectif de la colonisation, occuper et exploiter les Congos. Dès 1960, les responsables congolais devraient assigner une nouvelle finalité à la nouvelle armée naissante, l'armée nationale congolaise ou l'ANC. Ils n'ont pas eu le temps de le faire du fait de la mutinerie qui s'est déclenchée quelques jours après l'indépendance, mais aussi du fait de l'impréparation à l'africanisation dans l'armée et l'administration. Il faut tenir compte aussi que cette nouvelle armée, comme je l'ai dit, était née par césarienne dans la douleur de la guerre froide, qui a fait que pour le responsable politique congolais à ce moment, il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de cette nouvelle armée qui était un clone d'une armée coloniale. Et l'armée coloniale avait comme mission la loyauté vis-à-vis de l'autorité coloniale. Donc cette méfiance a fait que la nouvelle armée était déjà née sur des bases assez erronées. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre 1960 jusqu'en 63, 64, et puis, bon, Mobutu est arrivé, il a fait ce qu'il a pu faire en essayant de mettre fin à tous les désordres et en créant les prémices d'une armée avec tous les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir relancer cette armée. Mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé par la suite avec les FAS, lorsque Mobutu, je le dis, le militaire, a troqué son pays militaire à la tombe de Léopold et à la vacance pour devenir le Mobutu politicien, le Mobutu tribaliste, le Mobutu affairiste. Mm-hmm. Et c'est là que on peut situer même les débuts de la mise à mort de cette armée, ça qui explique un peu ce qui s'est passé pendant la Deuxième République. Et ce sont ces tas qui se sont poursuivis avec le FAC et qu'on retrouve aujourd'hui avec le FRDC.
La radioscopie relève du domaine médical, mais comment vous rapprochez ça dans le domaine militaire?
Au départ, j'avais fait une analyse l'année passée concernant l'anatomie. Mais je pense que la terminologie radioscopie, c'est vraiment faire la radio monter, arpenter l'intérieur, donc entrer à l'intérieur de ces armées pour comprendre la logique de leur fonctionnement. Donc ce n'est pas un ouvrage uniquement importance historique, c'est plus sociopolitique. Comprendre l'interaction entre l'armée et la politique, l'interaction entre l'armée et et la société, et pour en faire ressortir le rôle, quelle était la place, quel était le rôle de cette armée dans le fonctionnement de la vie politique congolaise. Donc cet ouvrage, non seulement a une importance du point de vue militaire, mais aussi en termes de sociologie politique congolaise. J'essaie d'expliquer l'histoire du Congo au départ de l'évolution de ces armées. C'est pour cela que j'ai pris des photos. Qui dit radioscopie, c'est prendre des photos de l'intérieur pour voir qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir traiter. Et j'ai, dans cette radioscopie, isolé quelques pathologies que j'appelle intraversion, perversion, subversion ou interversion. Et le livre explique en profondeur, dans les détails, c'est quoi intraversion. Ce sont des notions aussi qui touchent à la psychologie. C'est-à-dire une personne pas introvertie, qui est différente de introverti. On peut être introverti, quelqu'un qui se renferme, mais sans être nuisible. Mais dès lors qu'on est introverti, non seulement on se renferme sur soi, mais on se détourne du réel. C'est-à-dire que une armée qui se renferme vers l'intérieur, alors que la tâche principale d'une armée, c'est défendre les frontières extérieures. Mais ici, on a une armée qui se retourne plutôt vers l'intérieur, mais qui se détourne aussi du réel, de sa mission principale. Et j'utilise le terme introversion qui revient souvent, de manière illustrée, pour démontrer cette pathologie qui ronge, qui a rongé cette armée depuis la force publique jusqu'à aujourd'hui.
Dans le chapitre D de l'ouvrage, vous décrivez l'armée nationale congolaise de 1960 comme une armée de mitaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette image soit un peu améliorée?
Pour que cette image soit un peu améliorée, il faut d'abord commencer à faire ce qui ne doit pas être une armée.
C'est-à-dire?
Donc, ce qui ne doit pas être une armée c'est quoi? Une armée, pour moi, c'est la charpente d'une nation. Ça doit être le reflet de la nation congolaise. Mais dès lors qu'on crée déjà une armée, qu'on dit des milices, ou une armée tribale à base monotonique, où les équilibres ne sont pas respectés, c'est déjà un mauvais départ. Il faut d'abord que l'ensemble du monde politique, puis de la société congolaise, comprenne le rôle et la place de l'armée comme fondatrice de l'État. Comme l'armée, c'est elle qui crée la nation. Et j'ai même des exemples sur base des théories, hein, comme je l'ai dit dernièrement, tirées des sciences politiques, des relations internationales, qui montrent que même ici en Europe, là où je vis, l'État-nation, c'est une création à base de l'État. Et même l'origine de l'État, la terminologie État, quand on parle de l'État avec l'administration, le fonctionnement, l'État est né de l'armée. C'est sur base du modèle de fonctionnement des premières années modernes, vers le 16e et le 17e siècle, qu'on a modélisé le modèle du fonctionnement de l'État. Dès lors que nous n'avons pas compris ces éléments essentiels, il est difficile d'aller plus loin. Et la troisième chose, il faut aussi un courage politique, une vision politique, une volonté politique.
Vous évoquez une page douloureuse de l'histoire militaire du Congo. Là, vous faites allusion au coup d'État de 1975. Alors, pourquoi vous qualifiez ça d'une perte pour la République?
Non, c'est-à-dire que c'était une création du pouvoir qui s'est politisée davantage pour écarter toute une série d'officiers de grandes valeurs que le pays, pour qui le pays a consenti d'efforts pour aller les former dans les grandes académies militaires, et du jour au lendemain, ces gens ont été assassinés par des procès montés de toutes pièces et mis à la porte, notamment l'affaire des enveloppés. Tenez, monsieur le journaliste, au total, pour l'affaire de terroristes qui, avec le major Kaloumé, qui est un ancien corps militaire, monsieur Koudiakoubanza, le colonel ingénieur, par exemple, Kalonda, au total, il y a eu 752 officiers, sous-officiers,
qui ont été remerciés du jour au lendemain. En plus de 71 personnes qui étaient condamnées à mort, maître du jour au lendemain, c'est 72 officiers, généraux, supérieurs et sous-officiers, c'est déjà commencé vraiment à enterrer cette armée. Vous savez par exemple qu'il y a un ingénieur qui était parmi les condamnés à mort. Un jour, Mobutu se trouve du côté du Katanga, il y avait un pont qui s'est fissuré et tout, et du jour au lendemain, il appelle et dit, mais Kalonda Azali Wapi, où est le colonel Kalonda? Alors que quelques mois après, il venait de l'exécuter. Donc, personnellement, je situe à cette époque, et je suis assez explicite, et j'ai vraiment en profondeur les débuts du déclin de notre armée.
Voyez-vous encore des hommes qui peuvent faire quelque chose pour l'armée congolaise?
Avant de répondre à la question pour voir si nous pouvons encore voir des hommes aujourd'hui, je parle des hommes non seulement pour élever des figures positives et négatives, mais aussi par nécessité historique. On constate que depuis quelques temps au Congo, tout se met insidieusement en place pour amener l'ensemble de la population à un brainwashing, c'est-à-dire un lavage des cerveaux collectifs national consistant à nous déconnecter de notre passé et nous pousser à ne plus avoir la tradition d'honorer collectivement les vaillants filles et fils les plus méritants d'entre nous. Vous avez l'armée française aujourd'hui, en France, on parle des Jeanne d'Arc qui n'ont pas fait que de bonnes choses. Il y a cet esprit républicain qui est là présent pour nous rappeler par rapport à notre histoire. Nous, un peuple qui oublie son histoire est vraiment condamné à le revivre. Et c'est ça le piège d'où est actuellement vraiment dirigé. Et c'est ce que le professeur Abbé Richard Mugaru a dit, le Congo perd tout le sens du sacré. Et je l'explique dans cet ouvrage. Le Congo doit assumer son passé. Que ce passé soit infâme ou glorieux, il est de notre responsabilité d'assumer le passif et l'actif du Congo. Mais le Congo ne commence pas chaque fois qu'il y a une libération, une révolution. Mobutu, on oublie les héros du passé et Mobutu parle, les nouveaux maîtres viennent. On oublie, non, il faut à un certain moment léguer aux générations futures l'histoire du Congo avec les hauts et les bas. Et pour cela, dans ce livre, je parle par exemple de l'épisode je touche un mot de Ngongo Leteta, connu sous le nom de Ngongo Leteta par exemple. Je parle du général Mulamba Nyoni, surnommé le héros de Bukavu. Et 40 ans plus tard, on a connu Mbanze Kumu Dimbu Zamabe, qu'on a surnommé l'homme de Bukavu. Et j'ai fait des parallélismes comme ça, que certaines actions qui se sont passées dans le passé, on retrouve même que les situations actuelles auxquelles le pays est confronté ont trouvé des solutions bien avant. Les mutineries ne datent pas d'aujourd'hui, par exemple. Les mutineries datent déjà de l'époque précoloniale. Donc, 1895, on a eu la mutinerie de Lulabo, par exemple. Et quelques temps après, on a connu ce qu'on appelait la mutinerie de Baketela. Vous savez que pourquoi ces mutineries sont situées? Parce qu'on s'est retrouvé à ce moment avec des armées mono-ethniques. Et à l'époque même, l'autorité coloniale ou précoloniale avait pris des dispositions pour éviter qu'au sein d'une composante armée qui est plus de 25% natifs ou des ressortissants d'une même tribu. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des unités de régiments entiers à base ethnique. C'est pour cela que je cite des noms comme le major Ikuku dans la guerre du Chaba, surnommé le serpent du rail. Vous avez le sénateur Raymond Mbappé Nedjunga, qui est aujourd'hui sénateur proche de la majorité présidentielle. Je parle de mon feu père qui fut capitaine de la force publique, Jean Manyundu. J'ai aussi honoré la mémoire des personnes inconnues. J'ai parlé du général Paul Mukogo, j'ai parlé du général Dikuta, j'ai dit Baramoto Nzimbi, Dikuta, Didier Tumba, chacun selon ses mérites, ses actifs ou ses passifs. C'est aussi une sorte, pour moi, de constituer un lexique pour les jeunes générations qui ont entendu parler de ces noms sans savoir leur fait ou méfait d'armes. Le livre permet aussi à ces gens de retrouver quelques noms. On a entendu parler de cette personne. Qu'est-ce qu'il a commis, qu'est-ce qu'il n'a pas commis? Par exemple, le général, il est encore vivant. Le Congo aujourd'hui, pour répondre à votre question, pour voir si on a encore des hommes capables de faire quelque chose aujourd'hui, nous avons 70 millions d'habitants. Si vous parcourez le monde entier, vous serez surpris de voir que les Congolais sont capables du meilleur. Moi qui suis ici à l'extérieur, je suis déjà, avec toute humilité, un témoignage vivant. J'invite le lecteur à lire attentivement ce que l'ancien attaché militaire adjoint de la Belgique, le major d'aviation en retraite, Jean-Van Sénévan, qui a fait 25 ans du Congo, témoin dans l'avant-propos de cet ouvrage. Donc, je vraiment demande au lecteur de bien lire tous les détails qui sont, en commençant par les remerciements, en passant par la préface, un major qui a vécu 25 ans au Congo, un Belge, qui est né au Congo, qui a travaillé, qui a connu la force publique, l'ANC, les phases et les phases parlent de Congolais. problème aujourd'hui est d'éradiquer l'image d'une armée devant servir des dépotoirs vers la nation. Mm-hmm. Or, on a l'impression que quand quelqu'un n'est pas utile dans la société, on l'envoie dans l'armée. Raison pour laquelle je développe l'importance du couple armée-nation. Mm-hmm. Je suis persuadé que l'on peut encore trouver aujourd'hui parmi les ex-gendarmes katangais ou leurs descendants, parmi les vrais Congolais qui ont accompagné l'AFDEL dans leur rallye de Goma vers Kinshasa, parmi certaines ex-FAS et aujourd'hui parmi les jeunes gens qui se sont enrôlés dans FRDC, on peut trouver des jeunes gens coachés par les plus anciens parce que nous avons besoin de cette solidarité intergénérationnelle qui peuvent constituer la matrice de l'armée nationale républicaine.
Que peut-il faire pour refonder une armée nationale et républicaine en République démocratique du Congo, au regard de votre ouvrage?
Que faut-il faire pour refonder? Il y a beaucoup de choses. Je pense que cet ouvrage, c'est plus de 400 pages, mais il faut d'abord commencer par les fondations. Les fondations se composent de quoi une armée? Quels sont les éléments sur lesquels on peut construire, on peut tenir une armée? Et je peux décevoir beaucoup de choses. Avant de commencer de proposer des solutions, commençons d'abord à comprendre c'est quoi une armée. Et vous verrez dans cet ouvrage, je reviens avec des concepts fondamentaux. C'est quoi par exemple la discipline, l'ordre, la discipline qui reste même la base d'une armée. Vous verrez qu'une armée indisciplinée n'a jamais gagné une guerre. Elle est partout dans le monde. Et il faut comprendre l'importance de ces notions-là, de l'ordre, de l'obéissance, de l'éthique. C'est quoi une armée républicaine? Parce qu'aujourd'hui, on entend tout le monde dans les débats sociétaux dire, voilà, il faut une armée républicaine et tout. Ça devient comme une sauce succulente dans la bouche des gens. Mais peu de gens ne savent pas comment on prépare cette sauce-là. C'est quoi une armée nationale? C'est quoi une armée professionnelle? Et c'est quoi l'unité de commandement? La notion de l'armée-nation, l'esprit de tous ces concepts sont expliqués en détail dans mon ouvrage. Et quand tout le monde qui œuvre dans le cadre de la réforme de l'armée, mais aussi la population, surtout les parlementaires, aura compris cela, on pourrait déjà commencer à marcher dans la même direction. Et donc, on parle de convoquer d'urgence les états généraux de l'armée. On parle par exemple de l'intitulé d'impliquer le Parlement dans le processus de nomination des généraux, des officiers supérieurs ou des responsables dans des postes stratégiques au sein de l'armée. Et puis, comme solution concrète, je propose trois phases d'action, à moyen, à court, à moyen et à long terme. Et tout cela est vraiment détaillé dans le livre. J'appelle aux auditeurs de prendre le temps de découvrir ce livre. Ce n'est pas une œuvre parfaite, mais on a essayé d'apporter plus d'éléments pour dire que cela est possible. Cela est humainement possible. Je pense qu'il y a des possibilités, mais tout dépend de la volonté, des moyens. Et c'est comme je dis, le problème de l'armée, les gens pensent que la solution est d'abord militaire. Mais l'armée, c'est d'abord une question politique, où il y a un grand stratégiste qu'on cite souvent, Von Clausewitz, qui a dit que voilà, la guerre c'est une continuation de politiques par d'autres moyens. Mais le problème est que trop souvent, les gens le citent de façon tronquée, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de sa logique pour expliquer un peu en quoi cette guerre est la continuation de la politique. Ça signifie que la force d'une armée, la puissance d'un État, ce n'est pas l'armée qui doit décider cela, mais c'est une option politique, raison pour laquelle je parle de la stratégie. Et il y a tout un chapitre consacré aux notions de la stratégie, à la notion de la stratégie. J'explique c'est quoi une stratégie, pourquoi un pays doit avoir une stratégie générale, une stratégie militaire et une doctrine politique. Cet ouvrage sort officiellement ce 12 janvier en Belgique, à l'Université catholique de Louvain-Flamand. Et c'est un groupe de jeunes gens congolais de la diaspora, qu'on appelle Bana Leuven, qui ont organisé ce grand événement, qui sera peut-être une des grandes, du point de vue scientifique et congolaise, organisée ces dernières années ici en Belgique. Et ça mérite d'être dit, parce que souvent, on a une image assez négative de cette diaspora, mais je pense que la diaspora responsable est là, et est présente, et est active.
Merci beaucoup.
Merci à vous, M. Ken Kalema.